Il était une fois à l'Europe, la chronique de l'Europe Direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirmann, professeur émérite à l'Université de Strasbourg.
Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
Olivier Singer, Sylvain Schirmann.
Le 7 et le 10 juin 1979, pour la première fois, des millions d'Européens glissent un bulletin dans l'urne pour élire leurs représentants à Strasbourg. Jusque-là, le Parlement n'était qu'une assemblée de délégués nationaux. Le Parlement européen devient une institution élue, incarnée par une figure forte, Simone Veil. Sylvain Schirmann, avant 1979, quel rôle joue l'Assemblée parlementaire européenne et comment l'idée d'une élection au suffrage universel direct fait-elle son chemin ?
L'Assemblée parlementaire de la CE a une fonction de contrôle de la Commission, de contrôle du budget. En 1962, elle-même, par une résolution, s'autoproclame Parlement européen. Son élection est demandée dès les premiers temps de la construction européenne par de nombreux responsables et mouvements politiques. Songez au mouvement européen, à Altiero Spinelli, à Robert Schuman, qui s'était déjà, dès les années 50, exprimé en faveur d'une telle élection. Au lendemain de la relance de la haie, la question d'une Europe politique s'invite à nouveau dans la discussion et avec elle le sujet de l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Surtout, si l'on veut, comme c'est le désir des responsables politiques, progresser vers une Europe puissance. C'est au sommet de Paris en 1974, le 9-10 décembre 1974 précisément, que se prend la décision de faire élire les députés européens au suffrage universel, mais selon des modalités nationales.
En juin 1979, cette première élection au suffrage universel direct constitue donc un moment politique inédit. Concrètement, comment se déroule cette première élection européenne et pourquoi est-elle politiquement si marquante ?
Il faut souligner que la participation, compte tenu des élections suivantes, est élevée et que des responsables politiques de premier plan se présentent, le mandat européen n'étant pas incompatible à cette époque avec un mandat national. Parmi ces personnalités, on peut penser à Willy Brandt, à Jacques Chirac ou encore à Simone Veil. À l'exception du Royaume-Uni, qui vote le 7 juin, le scrutin se déroule le même jour, le 10 juin, partout ailleurs en Europe. Elle est politiquement importante car l'institution strasbourgeoise renforce sa légitimité par son élection et son mode de désignation amène sur le devant de la scène le citoyen européen, ce qui interroge ce concept si important de citoyenneté plurielle en Europe.
Mais malgré cette avancée démocratique, le Parlement européen reste en 1979 une institution au pouvoir très limité. En quoi cette élection prépare-t-elle malgré tout la montée en puissance progressive du Parlement européen ?
Un Parlement élu ne peut que s'affirmer car il est revêtu du sceau de l'onction des urnes. D'emblée, ce Parlement s'affirme. Rejet du budget proposé par la Commission à l'automne 1979, puis audition du président de la Commission et lancement d'un projet constituant pour l'Europe avec Altiero Spinelli et le club du crocodile. Il affiche des symboles forts, élection d'une femme, Simone Veil, à la présidence, accueil de chefs d'État étrangers comme Sadat, ou encore s'invite sur les sujets relatifs aux droits de l'homme. Il commence à nouer des relations avec les parlements nationaux et étrangers, si l'on veut bien se souvenir du voyage de Simone Veil au Congrès américain. Cette montée en puissance est fixée par les traités dès l'acte unique de 1986.
Donc l'élection au suffrage universel direct ne donne pas encore au Parlement européen tous les atours d'un Parlement national, mais il devient légitime. Le Parlement européen entre dans l'histoire par les urnes. Quelques années plus tard, un autre geste marquera l'Europe, la poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun, sujet de notre prochaine chronique.